Parlons des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, première émission de cette nouvelle saison et première émission consacrée à la rentrée littéraire avec deux écrivains dont les romans font le pari d'une certaine sauvagerie stylée, Jean-Baptiste Delamo et Céline Minard. Bonjour Céline Minard.
Bonjour.
Prix du livre Inter pour Faillir être flingué, vous publiez aux éditions Rivage Le Grand Jeu qui retrace une expérience radicale, celle que fait une narratrice dont on ne sait à peu près rien, sorte de nouvelle Diogène, qui a décidé de vivre dans ce qu'elle appelle son tonneau, un habitacle dessiné par ses soins, extrêmement design, écologique et affûté, accroché à un pan de montagne pour accomplir une retraite loin des hommes. De là s'organise une véritable discipline de vie tout aussi physique que spirituelle, en pleine nature, où votre héroïne converse avec les jets, escalade, se promène, prend des bains de lune, hein, c'est ça aussi, exactement, et qui va découvrir que cette solitude est troublée par la présence d'un autre être vivant. Alors, on a parfois, Céline Minard, l'impression de lire une sorte de Walden ou la vie dans les bois des temps modernes, voire un manuel de samouraï contemporain, parfois, qui réactualise le thème littéraire de l'ascèse et de la retraite, et qui interroge surtout, peut-être, la pertinence d'un tel désir aujourd'hui. Alors que notre rapport aux éléments naturels, minéraux, animaux, a bien changé. Est-ce que cette façon de creuser la question d'une certaine autarcie possible, d'une certaine sauvagerie possible au sein du monde contemporain, qui aurait, lui, tout misé sur le confort, est-ce que c'est ce qui a guidé ce grand jeu, Céline Minard, voilà, notre rapport au monde et la possibilité d'une certaine sauvagerie aujourd'hui?
Oui, sûrement. Je pense que ce qui l'a guidé, c'était effectivement l'idée d'échapper au confort ou de s'en éloigner. Et en échappant à cette forme de vie qui nous est quand même beaucoup prescrite et beaucoup imposée, se poser la question de quel environnement serait le plus exigeant pour conduire une vie. Alors évidemment, ma narratrice ne se met pas dans une situation d'inconfort total, puisqu'elle est dans cette espèce de tonneau chauffé, où il y a l'eau courante,
irriguée,
et où il y a même l'électricité. Mais elle se met dans des conditions de confort minimal, disons. Donc c'est pas une extrémiste. La démarche est radicale, mais elle n'est pas extrême.
Bonjour Jean-Baptiste Delamo.
Bonjour.
Auréolé du prix Goncourt du premier roman pour une éducation libertine, vous publiez chez Gallimard Règne animal, qui par son titre est dans une certaine proximité avec le livre de Céline Minard. C'est un livre tout aussi radical, hein, on en parlait avec vous Céline Minard, puisque vous retracez sur plus de 400 pages, la vie d'une famille d'éleveurs du Gers, saisie pour l'essentiel autour de la fin du 19e et surtout 14-18, puis deuxième moment en 1981. Et dans ce livre, vous misez sur une écriture qui s'attache vraiment à plonger le fer dans le physique, dans l'organique d'une vie menée au contact de l'animal, au contact de la sauvagerie. Hein, je voudrais aussi votre avis d'ailleurs sur ce terme de sauvagerie. Je voudrais savoir ce qui a mené l'auteur d'une éducation libertine et de pornographia dans cette ferme où animalité et humanité s'étreignent et se combattent à la fois dans une violence que vous présentez comme ancestrale, hein, presque mythologique, et dont la clé, il me semble, pourrait tenir en cette phrase, la porcherie comme berceau de leur barbarie et celle du monde.
Eh bien justement, c'est une image de porcherie qui a été à l'origine du projet, et la visite d'un élevage intensif porcin. De bon matin, je suis allé rendre visite à un éleveur qui m'a demandé d'aller nourrir les animaux avec lui. Et donc on est arrivé à l'aube devant un bâtiment bas, dans une campagne très silencieuse. Et dès qu'il a tiré les grandes portes de ces bâtiments, il y avait des centaines de truies qui se sont mis à hurler en même temps pour avoir leur ration de nourriture. Il se dégageait de tout ça une ambiance très particulière, qui m'a laissé comme une forme de persistance rétinienne à laquelle je revenais souvent en pensée. Et ça a été vraiment le point de départ de ce livre-là.
Et c'est d'ailleurs une image qui revient souvent chez vous, ce qu'on voit dans l'œil, puisque le narrateur décrit souvent la pupille et le spectacle qui se joue dans cette pupille, dans cette rétine. Merci à tous les deux de participer à cette émission, donc placée sous le signe d'une certaine radicalité littéraire, d'une certaine sauvagerie. Le mot sauvagerie, d'ailleurs, Jean-Baptiste Delamo, ça vous va pour caractériser un peu aussi l'un des thèmes du livre, ou l'esprit du livre, l'âme du livre?
Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une forme de polysémie. À la fois, la sauvagerie, ça peut être quelque chose de comme ça, d'instinctif, de brut et donc de beau, notamment dans le règne animal. Et puis, étrangement, transférée à l'homme, elle devient quelque chose de lié à la destruction. Donc, c'est comme s'il existait deux formes de sauvagerie, en fait. Une qui serait, somme toute, naturelle, acceptable, et une sauvagerie humaine, détestable.
Céline Minard, sur ce terme de sauvagerie et de cette polysémie. Est-ce qu'elle vit une vie sauvage, votre narratrice? Est-ce qu'elle est en quête de sauvagerie?
Non, je pense qu'elle est peut-être en quête de la sauvagerie tranquille des animaux non domestiques, justement. Et d'ailleurs, elle se demande si la sauvagerie chez l'homme, c'est pas le nourrisson. Et point barre. Et après, effectivement, on retombe dans le sens, la sauvagerie chez l'adulte, c'est forcément la guerre, la barbarie, etc.
D'abord, un petit mot sur la rentrée littéraire à laquelle vous vous exposez, hein, puisqu'on commence la saison avec vous. Qu'est-ce qu'elle représente, ou qu'est-ce qu'il représente plutôt, ce moment littéraire français? Embarras, Jean-Baptiste Delamo.
Qu'est-ce qu'il représente? Pour un auteur qui publie un roman, je pense que c'est un moment important, chargé en émotions, en inquiétudes aussi. Il se joue quand même quelque chose, un temps de vie, un temps de travail qu'on a accordé à un roman. Donc voilà, il y a un enjeu fort. Après, comme lecteur, je suis plutôt distant vis-à-vis du phénomène des rentrées littéraires. C'est pas du tout ce qui guide mes choix.
C'était l'auteur qui m'intéressait.
Non,
parce qu'on parlait de sauvagerie. Je sais pas ce que ça s'applique à la rentrée littéraire, Céline Minard.
On va voir.
Quel pouvoir garde encore, selon vous, la littérature, cette activité d'immersion lente dans un monde concret, souvent, dans ce monde justement mu par la rapidité et l'immédiateté? Quel pouvoir vous lui donnez encore à vos livres potentiels, ou en tout cas aux livres que vous rêvez de faire?
Peut-être un pouvoir de retrait quand même, ou de distance. C'est pas du chaud, c'est lent, un livre, ça s'écrit lentement. On n'est pas du tout dans la réaction. En tout cas, moi, je le suis pas, je le suis jamais. Et pourtant, il s'agit quand même toujours de parler de quelque chose de son époque, presque malgré nous, mais avec un pas de côté, un pas de recul, et puis du temps.
Donc ça, c'est le pouvoir que vous lui donnez par rapport à vous, écrivain. Mais est-ce que quand vous offrez ce livre au lecteur, je parle de réception littéraire, est-ce que vous attendez qu'il provoque cette retraite-là aussi dans l'esprit du lecteur?
Oui, je pense que c'est aussi une occasion de sortir, justement, comme du confort, de sortir de quelque chose qui est prescrit partout ailleurs.
Jean-Baptiste Delamo.
Oui, c'est comme il me semble que c'est comme une forme de méditation, de retour à la fois, une forme d'introspection, de temps présent aussi, qui est dicté par le rythme de la lecture, par le livre, et que c'est un temps très différent, très préservé encore.
Vos deux romans présentent deux réalités opposées dans les faits, dans les lieux et dans les époques, mais ont un point commun, c'est l'isolement et la fuite. Pour l'un d'entre vous, c'est l'ignorance du monde alentour qui effraie et qui isole les gens du dehors, comme vous les appelez, Jean-Baptiste Delamo. Et pour vous, Céline Minard, c'est la connaissance de ce même monde qui suscite la fuite. Tous les matins, dit votre narratrice, tous les matins, il faut se souvenir qu'on rencontrera un envieux, un imbécile, tant qu'on est en position de croiser un homme. Diriez-vous que la misanthropie, une misanthropie salutaire peut-être, fonde votre livre? Il faut quitter le monde des hommes, soit parce qu'il est trop animal, soit parce qu'il ne l'est pas assez.
Oui, la misanthropie, effectivement, mais c'est pas de la misanthropie, c'est juste un constat. Tous les matins, il faut se rappeler qu'on va croiser un envieux, un ingrat, un imbécile. C'est simplement une espèce de petite ritournelle. C'est Marc Aurèle, N'oublie pas que tous les matins, tu vas croiser ça, donc ne te mets pas en colère.
C'est du stoïcisme.
C'est du stoïcisme. C'est un remède contre la colère qu'on peut avoir envers ses semblables. Là, c'est effectivement un peu détourné. Elle évite tellement la colère qu'elle évite de rencontrer qui que ce soit.
On va continuer avec vous, Céline Minard, et plonger un peu plus dans ce grand jeu que vous publiez chez Rivage. Mais on écoute tout de suite votre choix musical. Vous avez choisi Purcell, Oh Solitude, My Sweetest Choice, interprété par Philippe Jarouski, sous la direction de Christina Plouard.
Sweetest choice, oh solitude, oh solitude, my sweetest, sweetest choice, places devoted.
Purcell, Oh Solitude, My Sweetest Choice, interprété par Philippe Jarouski, sous la direction de Christina Plouard. C'est le choix de Céline Minard qui publie Le Grand Jeu chez Rivage. Pourquoi ce choix musical, Céline Minard ?
Je sais pas trop. C'est un morceau qui me suit depuis Le Dernier Monde, dans lequel il est cité d'ailleurs. Et peut-être que certains de mes livres sont autour de ça. Est-ce que la solitude, c'est vraiment le choix le plus doux ? Ou le plus dur.
Et en quoi Purcell y répondrait, ou la musique y répondrait ?
Mais c'est dedans, c'est magnifique, c'est absolument mélancolique, mais c'est en l'air. Et ça parle de montagne, de rivière. La voix humaine, là, dit presque le contraire de ce qu'elle est en train d'essayer de démontrer.
Alors, expliquez un peu le contraire, qu'est-ce qu'elle démontrerait ?
Je ne peux pas expliquer. Elle démontre que cette présence-là est très belle et qu'elle n'est pas seulement une présence à soi.
Donc une sorte de don aussi, de don aux autres, une façon de s'échapper à soi-même.
C'est très étonnant, il y a vraiment une pratique de la musique en montagne et cette façon très isolée d'en faire et d'être écoutée, pas forcément que par des humains, il y a quelque chose d'absolument touchant là-dedans.
Votre narratrice, d'ailleurs votre héroïne, emporte un violoncelle.
Voilà, c'est une de ces disciplines et une de ces marques de culture, de civilisation, parce que il s'agit pas pour elle de retourner à un état primitif de nature sauvage, etc., mais de porter ou de continuer quelque chose de la grande culture au sein d'un environnement rocheux, minéral, vivant, étranger à elle.
C'est paradoxal d'ailleurs le fait de faire ce choix de retourner à l'état de nature, à l'état de solitude, mais en même temps dans un tonneau qui est loin d'être celui de Diogène, puisqu'il est tout à fait équipé, fonctionnel, qu'elle a dessiné elle-même, elle l'a affûté, elle l'a presque forgé comme une lame, et il a les derniers équipements. Si vous dites que c'est peut-être les derniers feux de la sophistication, ce tonneau.
Oui, c'est ça. C'est ce que je disais au début. C'est pas l'inconfort, c'est une espèce d'assaise très mesurée. On n'est pas dans l'exploit.
Pourquoi avoir justement choisi de limiter la... Alors, ça reste radical, mais de limiter cette radicalité justement à un confort minimum, à finalement ne pas choisir totalement la vie dans les bois, parce que ça aurait été peut-être... peu crédible.
Mais peut-être parce qu'elle n'est pas Diogène. C'est l'autre qui est Diogène. Et c'est l'autre qui va lui enseigner quelque chose. Elle est en quête. Et aussi, elle ne fait aucune démonstration. C'est ça. Il y a une espèce d'honnêteté dans sa démarche qui fait qu'elle ne se met pas en danger. Elle prend le risque de se retirer, mais ça n'est pas un danger.
Alors rappelons un peu ce qu'est ce grand jeu. Donc c'est le récit d'une expérience. Une femme quitte le monde des hommes pour s'installer, donc déposée par un hélicoptère dans cette retraite qu'elle a choisie et façonnée elle-même. On en a parlé, ce caisson, ce tonneau où il y a livres, panneaux photovoltaïques, dernier éclat d'une technologie avancée. Voilà, écrivez-vous. Sans savoir vraiment ce qu'elle y cherche, sinon qu'il faut mieux accueillir le monde. Alors c'est un récit à la première personne qui tient un peu du journal de bord de cette expérience de la solitude et de la nature, dans laquelle aussi vous plongez le lecteur. Et on y voit votre héroïne converser avec les jets, prendre des bains de lune, devenir, alors vous dites c'est l'autre qui est une Diogène, donc devenir une sorte d'ascète qui va rencontrer une encore plus ascète qu'elle, cette nonne que vous décrivez d'abord comme un paquet de laine, voilà, qui n'a d'abord pas forme humaine, une ermite, une stylite, pourrait-on dire, puisqu'il est question de se tenir en équilibre, en hauteur, seul. J'ai une première question quand même sur ce titre, Céline Minard, parce que quand on entend le grand jeu, on pense à une revue littéraire des années, fin des années 20, qui s'appelait Le Grand Jeu, qui avait été fondée notamment par Roger Vaillant, et un poète qui s'appelait Roger Gilbert Lecomte et qui formulait ainsi le mot d'ordre de cette revue qui flirtait un peu avec le surréalisme. Le grand jeu est irrémédiable, il ne se joue qu'une fois. Nous voulons le jouer à tous les instants de notre vie. Il faut se mettre dans un état de réceptivité entière. Pour cela, être pur, avoir fait le vide en soi. Est-ce que ce titre de grand jeu, il doit à cette revue, dans la mesure où cet état de réceptivité entière, c'est aussi ce que vise votre héroïne?
Oui, et l'irrémédiable, oui, c'est un titre qui est lié à cette revue, mais d'une façon très inconsciente. Et c'est Gilbert Lecomte, mais c'est aussi Daumal. Et Daumal était un vrai grimpeur. D'ailleurs, dans le mot analogue, il y a une très brève description de course en montagne, et c'est complètement halluciné, c'est très juste. Et donc, tout ça, ça collait très bien. Et je suis tombée, il y a pas très longtemps, sur un article de Bellour qui s'appelle Le Grand Jeu. Et il dit, Le Grand Jeu, c'est le western. Ça m'a fait beaucoup
voilà,
rire. Ah
voilà, évidemment. Voilà, tout était écrit, ouais. Presque. Je voudrais qu'on vous entende lire un extrait de ce grand jeu, Céline Minard. On est au début, et on décrit, finalement, cet habitat qu'elle a choisi et façonné.
La forme de mon habitat résulte d'une réflexion sur l'adaptation optimale à l'environnement dans lequel il devait s'inscrire. Un environnement contraignant en lui-même, à quoi s'ajoutait la contrainte de l'autonomie énergétique. Aucune bouteille de gaz et aucune ligne électrique, aucun apport extérieur ne devait servir pour l'éclairer et le chauffer. Le cylindre est le volume qui offre le moins de résistance au vent. Placé à l'horizontale, il présente peu de prise aux avalanches. Fixé pour moitié au-dessus du vide, il n'expose qu'une surface réduite à l'accumulation de la neige. Mon habitat n'est pas une idée d'extraterrestre, ni une toccade d'excentrique. Les conditions extérieures d'altitude, de climat, d'isolement ont été intégrées à sa fonction, abritée, pour guider l'élaboration de sa forme. Fonction et situation géographique, l'articulation de ces deux nécessités ont produit son enveloppe. S'il y a une esthétique dans ce volume, c'est celle de la survie. S'il y a une décision, c'est la mienne, celle de vouloir m'installer dans des conditions difficiles, en grande autonomie, à l'abri, dans un lieu couvert, chauffé par le soleil ou entre la lumière qui protège. L'environnement dans lequel j'ai situé mon abri est celui qui me convient, qui me procure par l'extérieur, en frottant et raclant l'enveloppe de mon corps qui résiste et s'adapte, la forme nécessaire de ma vie. Ce monde d'isolement, de vide, de grand froid, de grosse chaleur, de roches dures, de silence et de cris animaux laisse peu de choix. C'est un guide précis. La situation dans laquelle je suis est pensée, calculée, pour établir un entraînement maximal. Je l'ai soigneusement choisi. Je lui ai accordé mon assentiment le plus profond. Reste à découvrir si l'empreinte qu'elle a laissée dans mon esprit est une lumière ou une erreur.
Merci Céline Minard, extrait du grand jeu. Donc on est au début du récit, on voit bien qu'il s'agit d'un projet minutieusement préparé par l'héroïne, par la narratrice, puisque c'est à la première personne. Avec cette hésitation sur l'issue, lumière ou erreur, pourquoi hésite-t-elle à ce point?
Parce qu'elle sait pas, c'est une expérience qu'elle mène, c'est une hypothèse qu'elle a faite, qu'elle a posée là, au milieu des montagnes, et qu'elle va vérifier. Elle a donné son assentiment le plus profond, c'est-à-dire qu'elle ne reviendra pas là-dessus, elle s'est engagée, comme on s'engage dans une voie. quand en montagne, il y a des voies très engagées. Ça veut dire, vous pouvez pas faire demi-tour. Et vous ne pouvez que continuer. Donc là, elle s'est mise dans cette situation exactement. C'est très simple. Mais elle ne sait pas, pour autant, si elle a raison d'avance.
Et l'écrivain se met aussi dans une situation en posant, il y a presque une mise en abîme de la situation. Vous vivez aussi une expérience. Est-ce que vous saviez sur quoi allait déboucher cette expérience, ou est-ce que vous avez finalement écrit ce livre pour faire aussi, vous, une expérience d'écriture en posant ça, sachant que vous ne pouviez peut-être pas, vous aussi, revenir en arrière?
Mais on fait toujours ce...
Alors, on va demander à Jean-Baptiste Delhomme, on fait toujours ça?
J'espère. En tout cas, c'est ce vers quoi il faut tendre quand on est écrivain, je pense.
Ne pas revenir en arrière, jamais. Pas de repentir.
Jamais, non. Et s'engager dans une expérience sans retour. Oui.
C'est liminaire.
Oui, je pense. Néanmoins, quand je commence un livre, j'ai tout dans la main. Si, en cours d'écriture, je pars sur une fausse piste, je jette. Mais moi, je ne peux pas commencer un livre complètement à l'aveuglette et je sais où je vais. Même si c'est, disons quand même... très flou, c'est très dense.
C'est-à-dire que cette expérience-là, vous ne l'auriez pas abandonnée non plus. À partir du moment où vous aviez envisagé cette héroïne dans son tonneau ultra-moderne, ultra-sophistiqué, dans cette nature, il fallait aller au bout de toute façon, de cette assaise aussi.
Oui, certainement. Je suis aussi un peu têtue.
Alors, on pense évidemment, on parlait tout à l'heure de Marc Aurèle, évidemment, qui voulait réactiver le dogme stoïcien dans sa vie, ou à ceux de Henry David Thoreau, évidemment, Walden ou La vie dans les bois, hein, publié en 1854, qui était le récit aussi d'une retraite que Thoreau avait menée dans une cabane pendant 2 ans, dans une forêt qui appartenait à son ami Emerson, et qui se caractérisait aussi par cette nécessité de fondre toute action et toute éthique sur le rythme des éléments, ce que fait aussi votre héroïne. Est-ce que le grand jeu doit aussi à cette tradition de nature writing, à ce transcendantalisme de la bande de Thoreau et Emerson?
Oui, sûrement. Walden, c'est un livre qui a beaucoup infusé dans ma vie de lectrice et d'écrivain. Mais il y a aussi beaucoup d'autres. Il y a Camon au chômeil, par exemple, les notes de ma cabane de moine. Il y a toute une tradition du retrait en montagne. Beaucoup de poètes chinois aussi, en témoignent, mais en écrivent dans leur poésie. Et cette histoire de manuel, de tenue de journal, c'est aussi à la fois Épictète et Marc Aurèle. Cette pratique de l'écriture qui vise à réactiver des principes éthiques, des principes philosophiques, parce qu'ils doivent toujours l'être.
On se demande dans quelles conditions ce texte a été écrit, Céline Minard. Est-ce que vous avez vécu de près ou de loin, comme l'avait fait Thoreau, l'expérience que la narratrice mène dans le grand jeu, ou est-ce qu'il ne s'agit que d'une assaise mentale, une expérience mentale?
De toute façon, c'est mental. Mais c'est vrai que j'ai terminé ce livre en grande partie. Je campais dans un pré à 1500 mètres d'altitude dans les Pyrénées. Mais enfin, il n'y a rien de très exceptionnel là-dedans.
Non, mais le fait de se mettre en condition.
Pour failler être flingué, c'était pareil, oui. Sauf que c'était dans les Alpes. Et puis, j'ai vécu 3 mois dans une cabane d'estive en faisant rien qu'à marcher partout. Mais c'était déjà le début du grand jeu.
Ce que je veux dire, c'est ce qui est une mise en condition aussi physique. On est très, très dans le physique, c'est vrai. Et d'ailleurs, le mécanisme de la narration, c'est sensations, qu'elles soient visuelles, tactiles, auditives, débouchant sur une pensée et sur un questionnement philosophique. Est-ce qu'il y a eu aussi cette mise en condition physique quand vous écriviez le livre, pour écrire ce livre?
Oui, il y a eu une mise en condition physique et une situation dans l'environnement aussi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup regardé ce que c'était que le granit, ce que c'était qu'une marche en montagne, sur quel sentier, dans les pierriers, etc. Évidemment. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas... elle a une sensation qui débouche sur une pensée. Elle a les deux en même temps. Et la sensation est la pensée. Et en fait, c'est comme simplement deux formulations d'une tentative de résolution du même problème. Comment se déplacer, comment s'orienter, comment vivre, qu'est-ce qui peut être considéré comme un guide?
Alors, il y a un tournant, un basculement dans ce livre qui commence par une sensation, hein, on en parlait. Je me suis réveillé en pleine nuit sans savoir pourquoi, mais avec l'intuition nette que quelque chose était en train d'avoir lieu. S'il y a bien un mot important dans ce livre, Céline Minard, c'est le mot lieu, avoir lieu, avoir un lieu, se trouver un lieu, s'en inventer un. Il est question d'un battement clair, cuivré, qui frappe contre la paroi et qui rebondit sur la structure de cet habitacle, et qui va provoquer finalement une rencontre avec un autre être humain, décrit d'abord comme un paquet de laine. L'apparence de cet être humain n'est pas humaine au départ. Elle va avoir un nom, pourtant, puisqu'il s'agit bien d'un être humain. Vous lui donnez un nom, Dongbin. Le nom va être prononcé, hein, d'ailleurs, par cet être. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de nom? Quel est le sens de son nom, qui est tout à fait connoté asiatique, relié à une histoire asiatique, à une sagesse asiatique? Il y a beaucoup de questions de calligraphie, de peinture, de roseaux, de bambou. Qu'est-ce que c'est que cette Dongbin qui vient là?
Bah, c'est un vol. Et d'ailleurs, elle le dit dans son récit. Dongbin fait un récit à un moment dans le livre, qu'on n'a pas en direct, mais on a sa relation, et raconte qu'elle a été un général chinois, etc.
Oui, d'une puissance incommensurable.
Ouais. Oui, voilà. Dongbin, c'est un des personnages des pérégrinations vers l'Est. Et qui est effectivement un général chinois qui a joué un petit peu contre les dieux, une partie d'échec et une partie de combat. Et ça, bon, ça s'est mal passé parce que les dieux n'aiment pas trop ça. Donc, il y a eu, on l'a envoyé faire ses classes de méditation et de Dao dans la montagne.
Est-ce qu'il faut voir dans Dongbin, dans la présence aussi de ce personnage que vous décrivez comme un moine et qui sera peut-être une nonne, aussi une façon d'orienter le lecteur vers une autre forme de sagesse, hein, puisqu'on commence quand même par l'éloignement, on quitte un monde occidental. Il y a une description de New York où le personnage se promène comme ça dans New York et l'imagine telle une ville pétrifiée. Et puis finalement, on a l'impression que le paysage s'oriente de plus en plus vers l'Est. Est-ce qu'il y a chez vous, Céline Minard, la volonté aussi d'orienter le lecteur occidental vers une autre forme de sagesse, puisqu'il est question aussi beaucoup de philosophie dans ce grand jeu?
De l'orienter, donc.
De l'orienter, ouais. Dans tous les sens du terme.
Non, je crois que c'est plutôt une... Ce que j'ai plutôt envie de faire, c'est de mettre en rapport deux façons d'avoir des préceptes, d'avoir des règles, des rituels, que ce soit justement les Grecs de l'Antiquité ou les samouraïs ou les moines zen, et d'inscrire ça dans une pratique physique, mais qui n'est pas qu'orientale, parce que réellement, la philosophie antique se vivait.
Bien sûr, comme une pratique. Askésis, voilà. L'ascèse étant l'exercice, hein, askésis en grec. Ouais.
C'est plutôt ça mon idée, que de tendre vers un orientalisme qui est de bon teint en ce moment avec la méditation.
Oui, mais sauf que c'est vous.
Etc.
C'est vous qui l'importez aussi. Finalement, c'est Dongbin, c'est un général chinois.
Ouais,
on parle de calligraphie, de poèmes naturels avec le vent, l'eau. Donc cette touche-là, elle n'est pas seulement présente, disons, de façon dans la mode philosophique actuelle. C'est vous qui choisissez aussi de l'insérer dans cette utopie qu'est le grand jeu.
Bien sûr.
Donc il y a des raisons.
Oui, ça fait de la compagnie.
Une compagnie quoi, littéraire.
Ça proximité. Fait de la compagnie littéraire. C'est les sept sages dans la forêt de bambou. On peut causer quand on est plusieurs et quand on vient d'horizons différents. Et on peut causer différemment d'à peu près la même chose.
Alors il y a l'alcool aussi qui va être le lien entre ces deux femmes. Alors on est beaucoup moins dans la 16, à moins de considérer aussi l'absorption d'alcool peut-être comme un rituel chamanique très réglé, très ritualisé. L'alcool étant présent aussi dans toutes les religions, mais ça m'a fait penser. C'est cette rencontre donc, où l'alcool fait le lien entre ces deux femmes, à un extrait du cours de Deleuze où il disait « Un alcoolique, ce n'est pas du tout quelqu'un qui vit dans l'abstrait, ce n'est pas du tout quelqu'un dont l'âme est tournée sur de l'alcool, mais l'alcool est strictement inséparable d'un contexte fourmillant, auditif, gustatif, visuel. » Et je me suis dit, c'est complètement Céline Minard, au fond, avec toutes ces sensations, ces perceptions et cette présence. Vous disiez « La sensation est pensée ». Au fond, il sert à ça, cet alcool aussi.
Cet alcool sert à ça. Il fait partie de l'ascèse. Parce que aussi, l'alcool... l'ivresse, pas l'alcool. L'ivresse, quand elle n'est pas fourmillante et brouillée, permet quelque chose d'une perception du monde qui est assez frappante.
Dans cette ACES dont vous parliez, Céline Minard, donc on a bien compris le dispositif tout à fait minimal hein, que vous choisissez et qui se répercute d'ailleurs dès les premières pages quand le personnage explique et décrit parfaitement comme sur un plan d'architecte à quoi ressemble ce tonneau dans lequel elle va vivre. C'est extrêmement précis. Il y a aussi une recherche de vocabulaire, vous parlez de la terre qu'on greline, le mot géodésique qui est présent, le repérage physique est extrêmement important. Ça aussi, ça participe du cheminement ascétique à la fois de la narratrice et de l'écrivain qui écrit ce grand jeu et j'allais dire des termes du jeu.
C'est son chemin à elle. Moi comme écrivain, j'ai toujours besoin des mots précis, peut-être des mots justes, enfin en tout cas c'est une recherche parce que c'est aussi cette précision qui fait avancer le récit et sa geste, enfin, et son sens. Si le mot n'est pas tout à fait juste, ça va pas s'articuler, en fait. Mais c'est pas une ascèse, c'est un travail.
Je pensais à ça en revenant sur l'étymologie d'ascèse d'exercice. Il y a des exercices physiques dans ce grand jeu. On progresse dans la montagne et il s'agit de retrouver des repères qu'on a inscrit et de pousser les repères. Il est question d'une sangle aussi, je vais pas de funambulisme. Donc je me demandais si ce terme de lieu aussi, qui est très très présent, si cette spatialité qui est décrite de façon très très précise, finalement, il y a toujours les règles d'un jeu. Est-ce que cette spatialité forte et qui se manifeste par des mots précis joue aussi finalement une forme de règle du jeu pour ce récit ?
Oui, sûrement. Il s'agit de délimiter, d'envelopper et d'explorer un territoire. Mais cette spatialité, c'est aussi quelque chose de l'ordre de la pensée. Alors moi, pour le coup, moi-même, j'ai une pensée très spatiale. Même quand on est en pleine abstraction, je spatialise les choses. C'est pas du tout un truc à faire. Et c'est sûrement pour ça que je suis pas capable de créer des concepts, parce que tout de suite, c'est spatial. Mmh. Et précisément, ces histoires d'exercice, c'est exercer cette faculté d'exploration à la fois de l'environnement et dans la pensée. C'est vraiment un même mouvement. Deux formes différentes, mais un même mouvement.
Vous comprenez, Jean-Baptiste Delamo, justement, cette importance que vient de dire Céline Minard sur la spatialisation et le mot aussi comme repère.
Alors sur la spatialisation, étant donné que moi je n'ai aucune notion d'orientation ni de spatialisation, du coup ça me semble un peu abstrait.
En termes d'écriture, hein, évidemment.
Oui, alors ce qui me parle en revanche, effectivement, c'est à la fois la recherche du mot juste qui sous-tend sans doute notre travail. Enfin, moi j'ai l'impression que j'essaie de communiquer des images et que pour que ces images soient communiquées, il faut qu'elles soient verbalisées le plus précisément possible. Et c'est vrai que dans le grand jeu, il y a cette importance de l'espace, mais c'est un espace qui est aussi mouvant. Je l'ai trouvé parfois presque un peu surréaliste, il s'y passe des choses étranges. J'ai eu l'impression de progresser. Tu parlais tout à l'heure des moines zen. J'ai eu l'impression, moi, de retrouver un peu cette tradition du zen, et en particulier du zen rinzai, qui fonctionne aussi avec des koans, des interrogations qui ont pour but de nous amener à questionner le sens véritable de notre existence. L'importance de ce quotidien aussi, très présent dans le zen. Comment est-ce que, en revenant aux choses simples, régulières, à l'exercice, à la répétition, on atteint un sens caché en réalité.
Et une forme d'ataraxie, pour prendre un terme cette fois-ci antique, et basculer de l'Orient à l'Occident. En tout cas, le jeu vaut la chandelle, Céline Minard. Vous restez avec nous puisqu'on va se pencher sur le texte de Jean-Baptiste Delamo, donc règne animal, confrontation aussi à un monde autre que le monde humain. C'est un peu plus compliqué que ça puisque le monde humain et animal s'entrelacent jusqu'à un final que je ne vais pas dévoiler, mais où une bête va presque synthétiser les deux ordres. On en parle tout de suite avec vous, Jean-Baptiste Delamo, mais on écoute votre choix musical. Vous avez choisi Soap and Skin et c'est
Fleischwolf.
Oh,
Fleischwolf, Soap and Skin. C'est le choix de Jean-Baptiste Delamo qui publie Règne Animal chez Gallimard. Fleischwolf, c'est la viande de loup. On a plutôt entendu des bruits de porcherie, Jean-Baptiste Delamo.
Oui, Soap and Skin, c'est le projet d'une jeune Autrichienne qui s'appelle Anya Plaschke et dont les parents étaient éleveurs de porcs. Donc voilà, elle a travaillé sur les sons de la porcherie en questionnant bien évidemment par le titre notre rapport à cette viande.
Oui. Alors évidemment la porcherie est au centre de Règne Animal puisque c'est une exploitation agricole que vous prenez dans votre champ de vision, que vous étreignez complètement et qui est vouée à devenir justement une porcherie industrielle. Donc ce choix a été pour nous mettre directement dans l'ambiance, Jean-Baptiste Alain.
Exactement, j'ai planté le décor.
Voilà, le décor est planté. Alors Règne Animal n'est pas sans musique non plus, même si cette musique est plutôt un chant de la terre, un chant violent, un chant sanglant, un chant des organes, aussi humain comme porcin. Donc Règne Animal s'intéresse de près à une famille de paysans du Gers voués à l'élevage porcin. Depuis les grandes lignes destructrices de la post-révolution industrielle jusqu'aux dérives des politiques agroalimentaires contemporaines. On passe de la fin du 19e aux années 80. Alors du côté des animaux, eh bien vous transformez totalement la ferme qui était devenue, en tout cas dans notre esprit, comme une sorte d'image d'épinal du monde paysan en un monde infernal, hein, un élevage en batterie où l'agonie physique est là, mais agonie physique presque agonie morale aussi des gens qui s'occupent de ces bêtes, si occupé étant un bien grand mot, peut-être. C'est une sorte de huis clos à l'air libre que vous nous offrez avec ce livre où hommes et bêtes vivent ensemble et se renvoient leur animalité, leur humanité dos à dos, si je puis dire. Et cette structure, finalement, se matérialise dans le texte par des parallélismes permanents, en fait, entre la vie des paysans et celle des animaux. Et puis il y a l'écriture, on en a parlé avec Céline Minard, et ce sens, cette importance du mot. Alors autant on est dans une certaine recherche de sécheresse chez vous, Céline Minard, vraiment de pointe fine, c'est tout aussi fin chez vous, Jean-Baptiste Delamo, mais les phrases sont beaucoup plus longues, précieuses peut-être aussi, en contraste total avec l'horreur qu'elles disent, comme si l'écriture était là pour nous donner quelque chose, une chose à laquelle se raccrocher. C'est la première question que je voulais vous poser, Jean-Baptiste Delamo. Pourquoi avoir choisi une langue en apparence si éloignée de la vie des hommes que vous nous racontez? C'est-à-dire que c'est pas une langue vernaculaire comme chez Giono, par exemple. Il y a assez peu de dialogue aussi, du moins au début, qui aurait pu donner à entendre aussi la langue paysanne. Vous évitez tout ça, vous prenez le parti en tout cas d'aller dans une direction d'une phrase d'une grande richesse, d'une grande profusion, une grande précision aussi, et presque précieuse, je disais ça, que j'aime beaucoup hein, par ailleurs. Précisons.
Oui, alors en fait, je ne sais pas si il est nécessaire que la langue s'adapte exactement et de manière attendue à l'univers qui est décrit. Quand on lit les livres de Jean Genet, quand on lit aussi les livres de Cormac McCarthy, par exemple, on a ce travail sur la langue, sur la matière, des langues qu'on va qualifier sans doute de baroques, mais je pense que c'est simplement une recherche linguistique et musicale pour essayer de percevoir une forme de vérité, de donner à voir une forme de vérité que l'on perçoit de manière tout à fait subjective en tant qu'auteur. Donc cette langue-là, d'abord c'est la mienne, c'est pas une démarche consciente. Et dans Règne Animal, j'ai aussi eu le sentiment qu'elle évoluait avec le passage du temps et en particulier des époques. La première époque, début 20e siècle, il est vrai, plus différemment travaillé, en tout cas que la langue utilisée dans l'époque contemporaine, où on est dans le langage de la technicité, de la porcherie.
Et où les dialogues sont beaucoup plus nombreux d'ailleurs.
Voilà, c'est ça.
Et la première partie, vous la décririez comment justement, cette partie 19e? Vous parliez de baroque tout à l'heure, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendez par cette notion de baroque cette langue?
C'est pas un terme que j'aurais utilisé moi, c'est souvent ce qu'on me renvoie en parlant de cette écriture-là. J'ai l'impression que... Alors bon, j'adore la musique baroque,
oui.
Je l'accepte, mais oui, mais ça a un côté un peu... comme si on parlait de quelque chose d'un peu dépassé, d'un peu passéiste. Pourtant, j'ai l'impression de travailler une écriture contemporaine.
Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de son écriture, Céline Minard, quand il dit, quand Jean-Baptiste Delamo, voilà, on me dit c'est baroque, comme si c'était passéiste. Moi, je me sens au contraire contemporain. Est-ce que vous comprenez ces interrogations-là et qu'est-ce que vous diriez aussi sur cette langue qui est la sienne?
Oui, je dirais qu'elle est foisonnante. Effectivement, c'est très à l'opposé de la langue du grand jeu. Ce que vous avez dit est très juste, hein, c'est foisonnant et précis. Pour moi, ça n'est pas précieux parce que ça, ce serait pas passé. Et il y a une espèce de justesse dans l'image, enfin, qui est proposée. Enfin, vraiment, on voit les choses. Et cette affaire de domesticité de l'animal et la proximité qu'il y a au début du livre entre les corps, en fait, les deux formes de vie corporelle, c'est très fort. Et d'ailleurs, c'est très imbriqué, puisque la gamine va téter le porcelet, etc. Donc, il y a déjà... Et ça m'a fait penser aux échanges de fées, aux échanges d'enfants. Il y a quelque chose de magique.
Entre le règne animal et le règne humain. Oui, voilà, oui, les enfants, l'enfant d'un règne étant biberonné, si je puis dire, par l'autre. Quand je disais précieux, en fait, c'est une langue qui sertit la chose. Mm. Et comme cette chose est souvent atroce, hein, il s'agit de meurtre, de fange, de boue, d'humeur, de pu. Hein, vous travaillez vraiment ce champ lexical-là, justement. Par opposition, je parlais de préciosité, car c'est précieux, c'est très très beau, finalement, ce que vous arrivez à faire sur de la mort, du putride et du fangeux.
J'aime bien l'idée d'une forme de naturalisme ou d'hyper-naturalisme. Et puis, je crois aussi que on se construit avec ses lectures. Et que moi, mes lectures, j'ai été profondément bouleversé par Baudelaire, par la poésie de Trakl. Et voilà, toutes ces influences-là aussi ont orienté ce que j'essaie de faire en littérature.
Une certaine littérature fin de siècle aussi.
Baudelaire, mais pas que, tout à l'heure, je vous parlais de Cormac McCarthy. Oui. C'est vraiment une lecture très importante pour moi. Et je trouve aussi qu'il est dans ce travail très singulier sur la langue.
On va vous écouter, Jean-Baptiste Delamo, lire un extrait de Règne animal. J'ai hésité beaucoup pour chacun d'entre vous. Ce sont deux livres que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Mais j'ai choisi, voilà, un passage. Mais on va voir justement si on peut parler de préciosité ou pas. En tout cas, de brutalité, certainement.
À cette heure, le père et l'oncle ont fini de nourrir les porcs. Jérôme aime entrer dans la porcherie et passer devant les enclos, regarder les bêtes et assister au travail des hommes. Il tend une main, paume ouverte vers leur groin frais et humide, et les porcs le pressent contre sa paume, en respirent l'odeur, la lèchent parfois. Puis il passe la main sur leur front, leur soie blanche, leurs yeux ciliés. Ils se taisent alors et s'immobilisent sous la caresse. Il leur apporte de l'extérieur des saveurs inconnues, des poignées d'herbes fraîches, des glands, des marrons, un ver de terre, une charogne. Parfois, en dépit des mises en garde des pères, ils se glissent dans le bâtiment de la gestation. Ils longent sans bruit les stalles, où les bêtes allongées et entravées par les grilles de contention allaitent leur portée. Ils dérobent au hasard quelques-uns des corps de porcelets qui n'ont su échapper au mouvement de la mère convulsée par les douleurs de la gésine. Ceux trop malingres pour combattre et obtenir une tétine, ceux parfois difformes et inaptes à la survie, que les pères attrapent indifféremment par les pattes arrière, lèvent au-dessus de leur tête puis fracassent contre les barreaux des enclos ou à même le sol, laissant sur le ciment de longues traînées d'un rouge éclatant, frappent encore par acquis de conscience, fendant les crânes fragiles, et certains porcelets explosent littéralement sous la puissance des coups assenés. Ils balancent ensuite les cadavres tuméfiés dans des seaux ou une brouette, dans lesquels certains convulsent et finissent par mourir d'hémorragie, tandis que d'autres, déjà morts, déversent les petites frises délicates de leurs organes expulsés. Il y a toujours du déchet, comme dans toute production. Profitant que les pères aient le dos tourné, Jérôme prélève dans la brouette un ou deux petits corps, les glisse dans son sac à dos ou dans les poches de son pantalon. Celle-là me fait trop de déchets, elle vaut rien, tu la transfères à l'engraissage. Plutôt que de les incinérer, Henri les donne parfois aux chiens. Il jette dans les airs les porcelets qui retombent au milieu du claquement des mâchoires. C'est bon pour leur instinct de chasse. Jérôme, lui, les emporte à l'ancienne chapelle.
Merci Jean-Baptiste Delamo. Extrait de Règne animal que vous publiez chez Gallimard. Alors, on parlait de cette langue qui essaie de sertir une réalité absolument atroce. Vous avez parlé tout à l'heure de de naturalisme, c'est vous qui avez employé le mot. J'interrogeais tout à l'heure Céline Minard sur la méthode, hein, sur la mise en condition. Quand on parle de naturalisme, évidemment, on pense à des gens comme par exemple les Goncourt. Et dans la préface de Germini Lacerteux, il y avait cette définition du roman. Le roman comme grande forme sérieuse de l'étude littéraire et de l'enquête sociale. Le roman qui s'impose les études et les devoirs de la science. Quelle a été la méthode de Règne animal? J'ai vu que vous remerciez à la fin deux personnes, les œuvres de deux personnes, et aussi vous parlez d'archives. Alors comment avez-vous travaillé pour être naturaliste?
Alors tout d'abord, il y a sur la première période, la partie plus historique, j'ai essentiellement orienté mon travail sur des recherches liées au quotidien des gens dans le sud-ouest de la France dans les années 1890 à 1920. Et ce qui m'intéressait, plus qu'une peinture sociale, c'était de percevoir de quelle manière ces gens vivaient leur rapport au corps, au quotidien, à la nature, au passage des saisons, pour pouvoir composer cette fresque qui a abouti à ces deux premières parties. J'ai aussi travaillé, bien sûr, sur la présence du cochon en particulier dans ces campagnes du début du XXe siècle, et puis l'évolution de sa perception par les hommes qui les élèvent.
Et pourquoi le cochon, justement cet animal qui est à la fois très très proche biologiquement de l'homme et paradoxalement vu par lui dans de nombreuses civilisations, et dans le langage aussi, hein, puisque traiter quelqu'un de sale porc ou de truie, vu comme parfois le plus vil des animaux, qu'est-ce qui vous intéressait dans cet animal précis?
Alors ça, c'est un peu un mystère. C'est avant tout un souvenir d'enfance. J'ai grandi dans le sud-ouest de la France et à la campagne. Et je me souviens des derniers cochons engraissés vers chez moi, non pas dans des porcheries, mais par des familles qui élevaient un cochon généralement chaque année. Et je me souviens de cette bête gigantesque élevée dans une soue minuscule et qui grognait derrière la porte. Elle vivait dans l'obscurité totale. Et je me souviens de voir jaillir cet animal qui me semblait extraordinaire, et qu'il fallait ensuite frapper pour le reconduire à sa soue et l'enfermer à nouveau. Et étrangement, enfant, quand j'ai vu cet animal et le rapport de violence qui était entretenu avec lui, j'ai ressenti une très forte empathie, une forme presque de parenté. Et j'ai toujours eu une grande affection pour les cochons.
Alors, dans la tradition littéraire, l'animal, d'ailleurs, c'est la question pour vous aussi, Céline Minard, l'animal n'est souvent qu'un moyen pour parler de l'homme. Même quand on relit, par exemple, Aristote, on trouve ça chez Aristote, que l'homme soit un animal politique et à un plus haut degré qu'une abeille quelconque ou de tout autre animal vivant à l'état grégaire, cela est évident, car c'est le caractère propre à l'homme par rapport aux autres animaux d'être le seul à avoir le sentiment du bien et du mal, du juste et de l'injuste et des autres notions morales. On a l'impression, et le titre le dit, Règne animal, qu'il y a la volonté chez vous de pulvériser, non pas forcément seulement Aristote, mais de pulvériser cette idée, au fond, assez de ce règne humain, le règne animal est peut-être bien quelque chose qu'il faudrait enfin considérer au mépris, par exemple, même de La Fontaine, puisque les animaux étaient juste une façon, en fait, de décrire un peu mieux les hommes.
Je crois qu'aujourd'hui, fort heureusement, la science et les découvertes récentes ont balayé cette idée de l'animal machine. On sait aujourd'hui que la majeure partie des animaux sont des êtres sensibles et même sentients, qui ont conscience de leur individualité. Et effectivement, le gros travail, je crois, des prochaines décennies va être de réinventer et reconsidérer notre rapport aux autres animaux. Vous disiez que l'animal était souvent utilisé comme une métaphore ou pour éclairer, en tout cas, bien souvent, malheureusement, les travers de l'homme. Là, en l'occurrence, j'ai essayé d'avoir dans Règne animal une approche égale, qu'à la fois les hommes éclairent quelque chose de la vie et de la souffrance silencieuse des bêtes, mais aussi que les animaux nous donnent à voir l'impasse dans laquelle ces hommes se sont retrouvés.
Sauf que la proximité, finalement, le parallélisme que vous faites entre les hommes et les femmes, contrairement à vous, par exemple, Céline Mina, où il y a ces conversations avec le jet, avec la marmotte, où il y a un état de fascination, finalement, réciproque, et finalement une certaine beauté, une connaissance mutuelle qui commence à se développer. J'ai l'impression que chez Jean-Baptiste Delamo, finalement, cette proximité, elle s'établit par le bas. Au fond, le personnage qui ouvre votre livre, ce paysan qui rentre chez lui, parle de sa puanteur qui est la puanteur des bêtes. En fait, on est unis avant tout par les humeurs, par la sueur, par la crasse et par la maladie. Maladie des porcs, très importante dans votre livre, hein, et les élevages qu'il faut abattre en entier, et maladie de l'être humain qui, dès qu'il tombe dans une fosse à purin ou dans le lisier en essayant de tirer un porc, finalement, tombe ensuite dans le cancer et dans les maladies. Donc cette proximité, elle se fait pas comme chez vous, Céline Minard, dans une sorte de nouvelle cosmologie plutôt céleste ou minérale, mais dans le fangeux et l'organique malade.
Oui, la matérialité, le corps en tout cas, la manière dont ce corps évolue, traverse la vie. Il faut voir aussi que ces hommes, en tout cas les adultes, il y a deux personnages en réalité qui ont un rapport moins dénaturé aux animaux, sont les enfants. Les deux personnages d'enfants, en l'occurrence, c'est Léonore, que l'on voit grandir dans les deux premières parties, et Jérôme, qui est présent dans les...
Et qui récupérait les petits porcelets pour les emmener à la chapelle.
Exactement.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette vision aussi, justement, animale, qui est vraiment aux antipodes?
C'est aux antipodes, je pense, parce qu'il s'agit de domesticité. Et justement, l'animal n'est pas libre, il est sous l'autorité de l'homme, il est un bien à consommer. C'est très violent dans le texte là qu'on vient d'entendre. Celle-là, elle fait beaucoup de déchets. Voilà, c'est une production. Mais c'est ça, l'élevage. C'est ça dans certains cas. Il y a aussi une ambiguïté fondamentale entre les éleveurs et les élevés qui reste très mystérieuse. Il y a
dans le mot même, éleveur, élevé,
voilà.
Pour au fond consommer et tuer. Ouais.
Oui, et dans le rapport, parce que en fait, il y a aussi des éleveurs qui supportent pas de tuer, qui préfèrent, quand le boucher arrive, préfèrent fermer les yeux, aller boire le café, faire autre chose. Donc il y a une espèce de lien complètement tordu, qui est un lien d'autorité et un lien d'affection, et un lien de consommation, et un lien de proximité de vivant, et tout ça est très confus en fait, et c'est vrai que ce foisonnement... Là, paraît dans vos phrases.
Et c'est aux écrivains, justement, d'accepter la tâche de déconfusionner les choses, de rétablir les justes rapports, de montrer autre chose. Sur ce rapport homme-animal, par exemple.
Je crois pas nécessairement. En tout cas, je me sens pas du tout ni investi d'une mission, ni porteur même d'un désir de retirer les œillères au public.
Mais c'est ce qui va se passer, parce que c'est vrai que même si on a eu des images, même récemment, de ce qui se passe dans certains abattoirs, quand on sort de règne animal, alors il y a une sublimation à la fin dans les dernières pages, avec cet être mi-bête, mi-humain, que vous appelez la bête, d'ailleurs, mais que vous décrivez comme un être humain, comme un vrai personnage de roman. Mais mis à part ça, on est quand même absolument, non seulement effrayé, mais fracassé par la violence de ce qui s'y passe.
Mais dans
ce cas, c'est ça aussi la force de la littérature.
Oui, une forme de vérité suffit. En l'occurrence, l'épidémie qui frappe l'élevage et que je décris est un cas réel que j'ai utilisé. Donc je pense que comme les images des abattoirs que l'on a vues récemment, il suffit parfois de donner à voir la vérité, la réalité, pour convaincre. Mais là encore, c'est en partie malgré moi. C'est-à-dire que ça n'était pas l'impulsion première du roman.
Est-ce qu'il y a aussi un plaisir esthétique chez vous à déplaire, finalement, en décrivant cette laideur, ce dégoût? Alors, c'est vrai que parfois, il y a des animaux à la peau rose, chaude et parfumée, mais souvent, on est dans l'éruption du pu, le lisier, la boue, les chairs putrides, le sang. Est-ce qu'il y a aussi une esthétique très, très décadente, hein, on parlait de fin de siècle tout à l'heure, à faire du beau avec cette lie, avec cet organique malade?
Non, j'ai pas du tout envie de déplaire, au contraire. En revanche, si le livre peut déranger, bousculer, interpeller, moi c'est ce que j'aime en tant que lecteur, donc si j'ai la possibilité de transmettre cette émotion-là à un lecteur, j'en suis ravi.
Qu'est-ce que vous en dites, Céline Minard? Ça, cette, vous n'avez pas été troublée aussi par cette,
moi, cette violence? Moi, je n'ai pas fini. Voilà. Hein, donc, voilà. Je suis au début du, ouais. du livre où le rapport n'est pas industriel voilà. encore. Hein, ah, il oui, est voilà. ambigu. Il est très organique et il est très crade. On est dans la merde, ça pue. Mais est-ce que ça pue? Qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise odeur? On pourra en parler. Et donc, pour l'instant, c'est... Il y a quelque chose de l'organique que l'homme et l'animal partagent complètement.
Donc, retour vers la sauvagerie, finalement. C'était le mot que j'avais utilisé à l'orée de cette émission. Est-ce que ce mot, vous pouvez l'accepter au terme de cette émission et le revendiquer en une sorte de sauvagerie littéraire dans un monde confortable? Céline Minard, puis Jean-Baptiste Delameau.
Moi, volontiers, oui, volontiers, mais dans un sens, disons, apaisé et assez spacieux de la sauvagerie. Il y a de la place.
Il y a de la place, Jean-Baptiste Delameau.
Oui, mais dans le sens du questionnement. Questionner et la sauvagerie des hommes et celle des animaux, et où, dans quel espace ils peuvent se rencontrer.
Donc, même mot, il y a de la place pour vous,
oui,
homme et animal.
Oui,
donc, règne animal, règne humain... aussi
même,
bien.
Oui, bien sûr. Voilà. Même combat.
Même combat, même grand jeu. Merci à tous les deux. Je rappelle le titre de vos livres. Céline Minard, Le Grand Jeu, c'est publié chez Rivage. Et Jean-Baptiste Delameau, Règne Animal, chez Gallimard. Merci à tous les deux. On retrouve notre libraire de la semaine. Nous sommes avec Pierre Delaforge. Deux librairies, hein, d'ailleurs. Librairie Les Arpenteurs, 9 rue Chauron à Paris, dans le 9e, et 20 rue des Petites Écuries. C'est l'ouvre-boîte, c'est aussi dans le 9e.
On
est sur le 10, hein, c'est
ouais,
ça, on
c'est
est dans le 10e. Voilà, bonjour Pierre Delaforge.
Bonjour Christophe.
Alors vous êtes venu avec le nouveau livre de Christine Montalbetti, La vie est faite de ces toutes petites choses. C'est publié chez POL. On est embarqué avec elle au sein de la dernière navette habité en juillet 2011, c'est la mission Atlantis, comme si vous y étiez.
Absolument, comme si on y était. Ça fait toujours plaisir de choisir un livre comme celui-là, qui est celui de Christine Montalbetti. C'est une auteure qui en est déjà à son 13e roman aujourd'hui, publié par les éditions POL, comme vous l'avez dit. C'est une écrivain complètement singulière, avec une véritable écriture, une véritable voix, je pense, et qui, l'air de rien, petit à petit, pose les jalons d'une œuvre qui s'épaissit de plus en plus, et je pense que ce 13e roman est l'aboutissement d'une pensée, d'une écriture qui est complètement à l'œuvre. Alors, vous l'avez dit, c'est une plongée, une immersion hein, même, dans la dernière expédition spatiale de 2011. 4 personnages qu'on va connaître finalement par leur petit nom, Sandra, Fergie, Doug, Rex, que nous allons suivre par le menu du décollage jusqu'à l'arrivée dans la station. Alors, ce qui est très intéressant avec ce livre, à mon avis, il y a bien sûr une licence poétique tout de suite affichée chez elle, une façon d'enrouler les phrases, une légèreté à l'image de la pesanteur qui règne dans le roman. On évolue d'une façon complètement exacte, et je pense que pour elle, c'est très très important. Il s'agit pas d'une fiction, encore moins d'un roman d'anticipation, elle le dit elle-même. J'avais envie d'écrire un roman où tout soit absolument exact.
Est-ce qu'on a peur pour eux? Est-ce que finalement l'aspect dramatique est important dans ce livre, ou est-ce qu'on s'en fiche complètement?
Il est important parce que quand même, quand on décolle, explosera pas, des petits problèmes, un ordinateur qui tombe en panne, on ne sait pas tellement comment ça va se passer. Mais finalement, une gravité qui est toujours balancée d'une légèreté, qui parfois, moi, une forme d'ironie qui me fait penser aussi quelquefois à Echnoz.
Elle dit qu'elle s'est beaucoup documentée hein, pour écrire ce livre, Christine Montalbetti. Betty, qu'elle a rencontré d'ailleurs certains des astronautes, visionné beaucoup de films, la narration est d'ailleurs très précise, très pleine de détails. Qu'est-ce qui distingue ce roman au fond d'un très bon documentaire en fait? En quoi justement c'est plus qu'un documentaire?
Oui, mais c'est là le nœud de ce livre, parce qu'effectivement le danger d'un livre comme celui-ci aurait été d'être prisonnier de sa propre documentation justement. C'est exactement l'inverse, elle arrive à complètement s'émanciper de son sujet, à vous faire rentrer dans cette navette spatiale que vous soyez passionné d'astronomie ou non, d'ailleurs.
Merci beaucoup, Pierre Delaforge, pour ce conseil de la semaine. La vie est faite de ces toutes petites choses. Très beau titre de Christine Montalbetti. C'est un roman, c'est publié par POL. Et j'invite les auditeurs à découvrir vos deux librairies. Hein. Quelle chance vous avez. de Absolument. L'ouvre-boîte, 20 rue des Petites Écuries, dans le 10e arrondissement à Paris. Et Les Arpenteurs, 9 rue Choron, c'est cette fois-ci dans le 9e.
Tout à fait.
Merci beaucoup Pierre Delaforge. Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, Anne-Laure Chanel et Pierre Monteil à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook, sur Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr cette émission et nos invités qui étaient aujourd'hui Céline Minard et Jean-Baptiste Delamo.